5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage bulletin. Décollage.
Orion, les chemins de l'espace, en compagnie de Gérard Rivet et de Jean-Michel Vialli.
Eh bien, rendez-vous dans l'ISS. Aujourd'hui, Jean-Michel, nous allons découvrir ce qu'est la vie à bord, comment on vit dans cette station spatiale internationale.
Oui, bonjour Gérard. Eh bien, bien sûr, c'est 6 personnes qui sont actuellement tournées au-dessus de nos têtes. Voilà, on va voir un peu leurs conditions de vie journalières et leur durée.
Alors, c'est la seconde émission consacrée à l'ISS. La première nous a permis de connaître un petit peu mieux ce qu'était le programme, l'histoire de la construction, ce gros mécano, hein, grand comme un terrain de football qui tourne autour de notre ère au-dessus de nos têtes à 400 km, c'est ça?
400 km, voilà. Donc, sur une orbite un petit peu elliptique, hein, comme tout objet en rotation autour d'une planète. Donc, on va pas donner les apogées et les périgées, hein, mais bon, voilà, ils sont à 400 km au-dessus de nos têtes.
Ils tournent assez vite et vu de la Terre, ils passent régulièrement. On peut rappeler effectivement
rappelle qu'ils sont à 28 000 km/h, qu'ils passent régulièrement sur le puy-en-velay, on va dire. Donc, il y a des périodes où on les voit dans le ciel du matin, des périodes où on les voit dans le ciel du soir, et puis des périodes où on ne les voit pas du tout, parce que tout ça, ce sont les mouvements, entre les mouvements de la station et les mouvements de la Terre, il y a des périodes d'absence.
Donc, station spatiale internationale, aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est quand même la vie à bord. Donc, on va rappeler qu'il y a des équipages depuis un certain temps, déjà.
Depuis le début du lancement de la station, au début, quelques hommes, et puis aujourd'hui, les équipages, pour l'instant, sont de 6 personnes. Alors, 6 personnes qui vont peut-être, ça va peut-être changer, puisque, notamment du côté russe, on parle de faire des missions plus longues, des missions d'une année. Donc, c'est dans les cartons, ça va peut-être se décider au début d'année 2015. Actuellement, les missions sont de 6 mois.
Donc, on va revenir effectivement en détail et avec quelques anecdotes, j'imagine, sur cette vie à bord. Comment on vit à bord de l'ISS? Et d'abord, comment on y va? Donc, il y a la question du décollage, du voyage, et puis après, comment on arrive là-dedans? Comment on rentre effectivement dans cette ISS? Donc, alors, le décollage déjà. Comment ça se passe pour les hommes et les femmes?
Alors, on revient un petit peu sur la construction qui a été faite du côté russe et du côté américain, notamment du côté américain avec les navettes spatiales, qui emmenait plusieurs astronautes, mais aujourd'hui les navettes spatiales n'existent plus. Et le seul véhicule qui permet actuellement de monter et de revenir dans la station, c'est le vaisseau russe Soyouz.
Soyouz. Et alors donc, cette phase du décollage, donc c'est un moment un petit peu crucial. Je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. C'est un moment de danger, vraiment, le décollage.
C'est un moment important dans la vie des astronautes. Donc, le décollage se fait de Baïkonour, donc au Kazakhstan.
Toujours.
Toujours. 3 personnes, un par vaisseau. Donc avec une très longue préparation, l'essai des scaphandres, le moulage des scaphandres, hein, puisque les scaphandres sont moulés, les sièges aussi sont moulés à l'anatomie un peu des personnages qui vont partir.
Alors ce décollage, restons vraiment sur la perception et l'enjeu, enfin ou la prouesse, enfin, l'exploit de ceux qui l'habitent, c'est une poussée sans doute extraordinaire.
Ah, c'est une poussée jusqu'à 4, 5G, très très rapide. Et au départ, donc les vaisseaux Soyouz faisaient plusieurs fois le tour de la Terre avant de s'arrimer à la station. Aujourd'hui, on a une procédure d'accrochage qui est très très rapide, puisque 3, 4, 5 révolutions maximum, et le vaisseau Soyouz va aller s'accrocher à la station spatiale internationale.
Donc ce voyage aller, il dure combien de temps?
Oh, très rapide, c'est l'ordre de 4 heures.
4 heures.
Oui, 4, 5 heures maximum.
Donc la vitesse, on rappelle quand même qu'il y a une vitesse d'échappement pour se libérer.
Il faut se libérer de l'attraction terrestre.
Hein, donc on passe de la vitesse zéro à la vitesse suffisante de 28 000 km/h, c'est ça?
Tout à fait.
Et on se retrouve dans l'espace, on fait quelques tours de la Terre, et puis après on va... Alors comment ça se fait? C'est un petit pilotage?
Je vais vous donner l'exemple de la dernière astronaute européenne, donc Samantha Cristoforetti, qui est partie il y a une quinzaine de jours.
On reparlera sans doute un petit peu tout à l'heure.
Voilà, donc elle nous dit ce décollage est très très fort, les poussées vraiment ressenties qui sont énormes, et puis petit à petit, elle s'habitue à ce décollage. Il y a dans le Soyouz quelque chose qui est qui est marrant, c'est ce petit nounours, cette petite peluche qui peint. Donc on le voit très bien sur les vidéos de décollage ou en direct d'ailleurs, puisque tout ça est retransmis.
Et qui est le symbole, l'emblème de...
De la pesanteur, hein, puisque le petit nounours qui peint, au bout d'un moment, vous le voyez, qui commence à s'envoler tout simplement. Ça veut dire qu'on a quitté l'atmosphère terrestre.
Donc décollage dans le bruit, dans la peur, enfin un peu la trouille du décollage.
Oui, bon,
certainement
ils sont formés pour ça, ils sont très très résistants.
Et puis très vite, finalement, ce bruit s'arrête, on se retrouve dans quelque chose de plus silencieux.
Donc, puisque on est sorti de l'atmosphère terrestre, le vide spatial, hein, on va dire, et se rapprocher très rapidement donc de cette station.
Donc il y a un peu de pilotage. Comment on arrive?
C'est automatique.
Tout est automatique.
Hein, tout est automatisé. Donc bien sûr avec la possibilité toujours de reprendre le contrôle. Hein, il y a le pilote, le commandant de bord.
Il y a un commandant de bord.
Voilà, il est formé pour ça. Et ce qui a surpris Samantha Cristoforetti, c'est cette couleur orangée de la station quand elle est arrivée.
Alors, on va voir effectivement ça. Mais bon, on arrive au port, en quelque sorte.
On arrive au port.
Donc, il y a une sorte d'aéroport. Il y a un passage en douane. Comment on entre à bord?
Il y a un port, effectivement. Donc, il y a un port d'accrochage. Une fois que le vaisseau Soyouz s'est accroché à la station, il va y avoir des procédures d'attente, des procédures de répétition avant l'ouverture du SAS.
Eh bien, nous parlons de l'ISS et nous voilà à bord. Nous sommes rentrés. Quelle est l'ambiance? Quelles sont les premières impressions d'un astronaute qui arrive pour la première fois à bord de cette station spatiale internationale?
L'accueil de ses compatriotes. Parce que lorsqu'il y a des missions, donc 3 astronautes redescendent, 3 autres rejoignent la station, donc il en reste 3 en vol. Et là, lorsque le SAS s'ouvre, c'est souvent de grosses accolades chaleureuses, de retrouvailles de gens qui se connaissent déjà, hein, puisqu'ils se sont rencontrés au sol.
Ils ont déjà souffert ensemble au sol dans les entraînements, je pense.
Oui, voilà, ils ont souffert ensemble. Ils ont eu beaucoup d'épreuves techniques, physiques, etc.
Donc chaleur humaine pour commencer.
Chaleur humaine pour commencer, tout à fait.
Quelle est la lumière? Quelle est la température? Quel bruit on entend? La lumière déjà.
La lumière, c'est essentiellement de la lumière de néon qui éclaire l'ensemble de la station, puisqu'il y a à peu près 110 kilowatts de puissance grâce aux 16 panneaux solaires.
Donc on vit en permanence dans l'éclairage artificiel.
On vit dans l'éclairage artificiel en permanence, bien sûr, parce qu'on peut pas ouvrir la porte pour faire entrer le soleil.
Voilà. Il y a parfois du soleil et parfois beaucoup de nuit. Aussi.
Beaucoup de soleil et beaucoup de nuit, puisque les températures côté soleil sont très élevées et les températures côté nuit sont très très froides.
Donc c'est un éclairage particulier, non ?
Un éclairage particulier, oui, beaucoup de néons partout, comme je vous l'ai dit.
On parle d'un univers orange.
Alors, l'univers orange, c'est surtout l'approche. Quand on est dans le vaisseau Soyouz et qu'on arrive sur la station, les panneaux solaires éclairés, parfois sur un éclairage solaire rasant, vont donner cette couleur orangée. Et ce que je vous l'ai dit, c'est ce qui avait surpris un petit peu Samantha Cristoforetti.
Voilà. Côté température.
Température de 24 degrés.
À l'extérieur, il fait combien?
Ça peut aller à moins 150, moins 200, voire plus, du côté positif aussi.
Donc, une température complètement maîtrisée. La vie à bord, donc, en termes de tenue, c'est une tenue décontractée?
Tenue décontractée, t-shirt, survêtement, chaussettes. Et bien sûr, ce bruit permanent de la ventilation. Donc, beaucoup d'astronautes nous l'ont dit, lors de rencontres qu'on a pu faire. C'est cette espèce de ventilation permanente pour bien sûr recycler l'air.
Donc c'est plus un bruit de fond que des bruits particuliers.
C'est un bruit de fond, on a l'impression d'un ventilateur qui tourne en permanence. On parlait de la lumière, mais bien sûr lorsqu'ils vont dormir, ils vont dormir dans le noir.
Oui, oui. Donc, ils se font de la musique, il y a de la musique, non c'est...
Il y a un piano ou un petit orgue, hein, il y en a qui montent la guitare, il y en a qui montent la flûte.
Ah, donc, quand même, donc,
chaque astronaute a pu monter plein de choses. Hein. Par exemple, je pense à Philippe Perrin qui a monté Le Petit Prince. En lecture, voilà.
Oh bah il lui devait bien.
Ça allait très très bien. Alors ils ont cherché la planète B612, puisque c'est celle du Petit Prince, mais ils ne l'ont pas vue.
Même de loin.
Même de loin.
Alors on parle aussi beaucoup de l'espace de vie particulièrement étroit. Enfin bon, on est un peu allé à l'étroit dans ces différents modules de la station.
On va dire c'est grand et c'est étroit. Comme je le disais sur la précédente émission, ce sont comme des grosses boîtes de conserve qui sont ajoutées les unes aux autres, alors soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal. Et il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Et ils se déplacent très très rapidement à l'intérieur. Donc lorsqu'ils ont un petit peu d'accoutumance, au bout de quelques jours, ils sont capables de déplacer la station à une vitesse, on va dire, extraordinaire. D'une impulsion du pied, ils s'amusent. Après, ils prennent beaucoup de plaisir pour ça.
Alors avant de parler plus en détail de la vie quotidienne et des problèmes liés à la pesanteur, quelle est la langue les langues qui sont parlées?
Alors bien sûr, chaque astronaute a sa propre langue, mais il faut absolument maîtriser le russe et l'anglais.
Alors, un mot sur l'équipage. Actuellement, à l'heure où on enregistre cette émission, ils sont combien à bord?
Alors ils sont 6 actuellement, puisqu'il y a 4 hommes et 2 femmes.
Alors il y a des femmes, il y avait en général plus d'hommes que de femmes.
En général plus d'hommes que de femmes.
Est-ce que l'on a des femmes depuis l'origine de la mission?
Pratiquement depuis le début, oui. Il y a même des femmes du côté américain qui ont été commandants de bord.
Donc aujourd'hui, on a une Italienne que vous avez rencontrée, je crois.
Non, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai rencontré quelqu'un de sa promotion, donc Thomas Pesquet.
Et alors Thomas Pesquet, justement, est un Français, et oui. C'est le prochain Français qui devrait, en principe, rejoindre l'ISS.
Voilà, 2017.
Donc il est sur une sorte de liste d'attente.
Liste d'attente qui est très très longue, et ça c'est très très éprouvant pour les astronautes, parce que la préparation est longue et il faut s'entretenir en permanence pour être prêt au départ.
Et bien ce jour-là on essaiera d'être au rendez-vous avec Orion Chemin de l'Espace, avec Thomas Pesquet. Nous sommes à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et on parle de la vie quotidienne, et notamment de cette vie en apesanteur, donc sans haut, sans bas, sans droite, sans gauche, etc.
Tout à fait.
Jean-Michel, première question, comment on se déplace dans un tel univers?
Eh ben donc on flotte, hein, on a l'impression de flotter dans l'air, donc d'une petite impulsion de la main, du pied, hein, on va pouvoir se déplacer rapidement. Donc au début, les astronautes, ils sont un petit peu perdus par ce monde nouveau, donc une petite impulsion de la main, du pied, et puis lorsqu'ils ont l'habitude, ils vont faire d'une impulsion, on les voit parfois sur des vidéos, faire un trajet très très rapide pour aller à l'autre bout de la station, ils prennent beaucoup de plaisir pour cela. Alors du plaisir, mais aussi c'est un handicap, parce qu'on perd un peu ses repères, on n'a plus les pieds sur terre.
Alors justement, il y a quand même il y a des impulsions, d'accord, mais enfin il faut aussi s'arrêter, il faut s'arrimer, il faut pour travailler éventuellement, donc il faut pouvoir s'accrocher. À quoi on s'accroche?
Des poignées en haut, des poignées en bas, des poignées à gauche, des poignées à droite. Alors ces poignées peuvent servir pour les mains et effectivement pour les pieds. Donc ils sont en chaussettes, et ce que nous disait par exemple Léopold Hertz, donc un astronaute que nous avons rencontré, c'est que les premiers jours il avait mal aux pieds, parce que le fait de s'accrocher les pieds sous ses barres, eh ben ça lui a fait un petit peu d'irritation, quoi, mais très très vite il s'habitue à cela.
Donc en fait, voilà, premier contact pour de la vie quotidienne, c'est déjà ce contact avec la pesanteur et donc ouais. qui exige des réflexes nouveaux. En tout
des
cas.
Réflexes nouveaux. On parle d'apesanteur aussi d'impesanteur. Hein, c'est un autre mot.
Alors, oui.
Voilà. Oh ben la différence n'est pas grande.
Les effets sont les mêmes.
Les effets sont les mêmes, voilà. Tout à fait.
Donc alors après, il y a la question du manger et du boire. Donc qu'est-ce qu'on mange?
Alors, ça a beaucoup changé, parce qu'au début, il y avait beaucoup de nourriture qui était dans des petits sachets avec une pipette, et puis hop, on appuyait sur le sac nylon pour aspirer tout ça. Aujourd'hui, bon, il y a des boîtes de conserve. Alors, il y a de très bons repas qui sont préparés, notamment par le chef Alain Ducasse, dans des boîtes, bien sûr. Mais aujourd'hui, il mange du saucisson.
Ouais. Voilà. L'absence de pesanteur n'enlève rien, j'allais dire, au goût.
Non, l'absence n'enlève rien au goût. Mais il y a des petites vidéos amusantes où on voit un astronaute couper une tranche de saucisson, puis là-bas, lancer, et puis un autre astronaute qui ouvre la bouche et qui l'attrape au vol. Voilà.
Donc aujourd'hui, on mange de bonnes choses dans des assiettes avec un couteau et une fourchette?
Non, pas jusque-là.
Pas jusque-là.
Mais bon, quand je dis balancer, parce que c'est vraiment le terme, on balance. Ouais. Voilà. Une petite anecdote d'un astronaute que j'ai eu la chance de rencontrer, puisque c'est un russe, Maxime Sureff, qui, au retour sur Terre, il était à la maison et son épouse lui dit « Tu peux me passer la fourchette ?» Et il lui a lancé la fourchette parce qu'il était encore là-haut.
Et moins un œil dans la famille.
Voilà.
Alors qu'est-ce qu'on boit aussi?
Alors les boissons, ben ils ont du jus de fruits, ils ont bien sûr de l'eau, hein, puisque l'eau est nécessaire à la vie. Ils se font des petits extras. Alors l'alcool interdit. Bon, même si on sait que de temps en temps il y a eu quelques petits écarts, surtout sur la station précédente Mir, où bon la vodka avait un petit peu coulé. Hein. Bon, théoriquement sur l'ISS l'alcool est interdit.
Et les champagnes, les bulles de champagne en apesanteur, c'est compliqué ça.
Ah, oui. Alors les bulles simplement. Les petites bulles d'eau, parce que des fois, lorsqu'ils boivent de l'eau, ils s'amusent à lâcher une petite goutte, et on voit très bien la petite goutte d'eau qui se balade en apesanteur, et là, il y a toujours un des astronautes présents, et hop, l'attrape au vol.
Pour aller la gober.
Alors ça, ce sont dans les vidéos qu'ils nous retransmettent pour faire partager leur vie spatiale.
Est-ce que l'on boit plus ou moins, ou pareil, à bord?
Je pense qu'ils doivent boire parce qu'il fait chaud. Il y a un air quand même relativement sec. Ils doivent certainement boire beaucoup. Mais là, bon, j'ai pas d'informations particulières là-dessus. Donc, pour poser la question une prochaine fois. C'est une question à poser, voyez.
Voilà, la prochaine fois qu'on en rencontre. Voilà. Absolument. Le ravitaillement. Donc là, je pense qu'il faut de temps en temps alimenter tous ces gens-là. D'un point de vue technique, sans doute, hein, du carburant. Mais puisqu'on est sur la nourriture, je pense qu'on peut pas stocker très longtemps non plus.
Alors, on avait un très gros vaisseau ravitailleur qui était les navettes spatiales, on a dit elles sont arrêtées. Donc aujourd'hui, la participation des différents pays, ce sont plusieurs véhicules ravitailleurs. Alors on va essayer de rapidement dénommer. Donc il y a le cargo japonais HTV, le cargo européen ATV, le vaisseau russe Progress, et du côté américain, c'est une société privée SpaceX avec sa capsule Dragon qui ravitaille notamment l'ISS.
Et en termes de tonnage, de quantité, ça représente beaucoup.
Et j'en rajoute un autre qui a participé aussi, c'est le cargo Cygnus. Hein. Voilà. Alors en tonnage, ce sont plusieurs tonnes. Hein, oui, donc ça peut aller 5-6 tonnes, notamment de nourriture, mais de carburant aussi, puisqu'il faut du carburant pour remonter la station régulièrement.
Alors, abordons maintenant les problèmes autres de la vie quotidienne, comme par exemple se reposer, dormir. Comment on dort sur cette ISS?
Alors, déjà, le programme journalier, c'est à peu près 3 fois 8 heures. Hein, 8 heures de travail, 8 heures de repos, et puis 8 heures d'exercice et de loisirs. Il faut faire beaucoup d'exercices. Hein, voilà, tapis roulant, sport. Il y a même une astronaute qui a fait un marathon sur son tapis roulant. Hein, voilà, donc,
premier marathon de l'espace. Qu'elle a gagné, évidemment.
Évidemment. Hein. Donc, pour dormir, eh bien, il existe des petits sas où l'on se ferme dans son sac de couchage, on tire la fermeture éclair, on ferme la porte et on va pouvoir dormir. Alors effectivement, on peut rentrer dans son sac de couchage du côté gauche, du côté droit, il n'y a aucune importance. L'essentiel, c'est de prendre son temps de repos.
Donc on dort arrimé.
Bien sûr.
Il y a des efforts particuliers pour dormir. Les retours des astronautes sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème particulier.
Non. Au retour, en général, ils reprennent très très vite les habitudes quotidiennes.
Autre petit problème quotidien, les toilettes.
Alors les toilettes, eh ben elles sont prévues avec les, donc elles sont fermées bien sûr, où chaque astronaute peut aller vaquer à ses besoins. Hein. Elles sont fermées avec des petits systèmes d'aspiration, bon pour tous les besoins quotidiens. Donc ça, c'est très très au point. Les Russes ont été les premiers à traiter, par exemple, le recyclage de l'urine. Ça, c'est donc des expériences qui ont été faites dans l'espace et qui après ont leur retombé sur Terre.
Très bien. Donc il y a des, il y a pas que, c'est pas du stockage systématique,
c'est pas du stockage systématique,
de recyclage, de traitement.
Voilà. Alors dans les premières années, on va dire de la conquête spatiale où l'homme était dans l'espace, eh ben souvent on éjectait, on va dire en gros les poubelles de l'extérieur. Aujourd'hui, on ramène tout ça sur Terre, notamment grâce aux capsules qui peuvent redescendre.
Dans la station spatiale internationale, on mange, on boit, on dort, on se déplace. Il y a aussi la question du sport que vous avez évoqué et des loisirs. Donc le sport, quelle forme de sport on peut faire ?
Alors il y a beaucoup de d'instruments pour physique, on va dire tapis roulant notamment pour courir, oui. Puisqu'on a parlé du marathon, oui. Tout à l'heure. Il y a des systèmes de musculation, voilà. Il faut entretenir son corps. Hein. Donc on imagine une petite salle de gymnastique, hein, où on va faire tous les exercices musculaires pour éviter donc de s'ankyloser, hein, dans cet espace pour préparer le retour sur Terre.
Donc ça c'est quand même une des tâches obligatoires.
C'est une tâche obligatoire. Les astronautes sont surveillés, contrôlés pour cela. Alors, le loisir.
Voilà, sur les loisirs, est-ce qu'on lit, on écrit, on dessine ?
On lit, on écrit, on a des contacts avec le sol, hein, donc avec sa famille. Les astronautes entretiennent des blogs où on peut leur poser des questions.
Oui, puis on doit regarder quand même de temps en temps la Terre.
Alors ça, c'est le grand spectacle.
Tout en bas.
Il y a une petite partie donc de l'ISS qui s'appelle la cupola, où on va dire une petite vitrine, hein, où on va aller regarder qu'est-ce qui se passe pas au-dessus de nos têtes, là, puisque c'est en dessous de leur tête. Et ils vont regarder notre belle planète Terre avec tout ce qui se passe, les nuages, notamment les cyclones aussi sont très très bien vus de l'espace.
Alors, il y a les loisirs... Mais il faut aussi travailler. Donc, quelles sont les tâches différentes ou essentielles de ces astronautes ? Je pense qu'il y a des expériences, les pilotages, de la maintenance peut-être ?
Alors, ils sont en mission. Donc, chaque astronaute a un programme, une mission. On parlait donc de l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti tout à l'heure. Donc, sa mission, elle s'appelle Futura. Et donc, elle va faire des expériences de biologie, des expériences physiques, des expériences sur le cœur, la circulation des fluides sanguins. Tout ça qui va pouvoir avoir ses retombées sur Terre.
Donc, ces expériences font partie d'un programme du pays de l'astronaute en question ou pas ?
Programme de l'ESA, hein, puisque l'astronaute de l'ESA a son programme ESA. Côté américain, ce sont des programmes de la NASA et du côté russe, donc de Roscosmos.
Très bien. Donc, des expériences en fait de science peut-être pure ou des expériences peut-être aussi sur le corps humain, sur la santé,
beaucoup.
Des choses comme ça.
Ouais, on a beaucoup étudié sur le flux sanguin, comment tout cela circule dans le corps. Bon, souvent on voit des astronautes qui pendant quelques jours sont bardés de capteurs et tout ça est relié au sol où on les surveille. On surveille beaucoup leur santé.
Alors, il y a aussi le pilotage. Je pense qu'il y a quelques actions de pilotage, de correction de trajectoire.
Pilotage automatique, bien sûr, mais lorsque la station peut rencontrer éventuellement un débris spatial, on peut leur demander d'intervenir, même si le pilotage automatique reste quand même privilégié.
Alors, on a sans doute des tâches de maintenance à bord, de la petite mécanique, des petites choses comme ça, je pense.
Hein. En permanence, parce qu'il y a énormément de choses dans la station, hein, depuis qu'elle a été construite, hein, depuis une vingtaine d'années, on a monté beaucoup de choses. Les sorties extravéhiculaires qui peuvent être demandées aux astronautes en cas de d'incident technique, notamment sur des panneaux solaires où on a eu une panne sur la circulation de fluide d'ammoniac par exemple.
Et puis il y a les sorties hors du vaisseau, de la station. Donc il faut des combinaisons. Ça arrive souvent, ça, c'est ce type de...
Ça fait partie du programme de mission. Donc il y a des astronautes qui font ces EVA, hein, Extra Vehicle Activity. Donc il y en a qui ne font pas d'EVA. C'est sur leur programme de mission.
Et puis Jean-Michel, il va falloir revenir effectivement de cette station avec le difficile passage de l'entrée dans l'atmosphère terrestre.
Alors le retour, eh ben, le retour, il peut se faire programmé. Oui, il peut se faire en cas d'incident, comme on l'a dit tout à l'heure.
En cas de maladie, par exemple, ou d'incident technique.
En cas de maladie, c'est arrivé d'un astronaute qui a fait, par exemple, un blocage urinaire. On était obligé de le ramener sur Terre. Ça a été très, très vite. Hein. Voilà, bon, ça n'a pas dû être agréable pour lui, à encaisser les jets dans une telle situation. Ouais. Mais bon, on revient par le Soyouz. Donc, c'est relativement rapide.
Oui, hein, la procédure d'évacuation et de retour,
c'est
rapide. Très, très rapide.
Donc, il suffit de s'installer dans le vaisseau Soyouz, de revêtir sa combinaison, de toujours la checklist, les procédures, et là, on se décroche et on va plonger dans l'atmosphère terrestre.
Alors, le temps nous manque un petit peu dans cette émission. Pour terminer, quand même, un mot sur la vie après l'ISS, quand on est astronaute et qu'on revient sur Terre, un an, deux ans, cinq ans, dix ans après.
Ça dépend des astronautes.
Quel type de personnage on est ?
Ah ben, un homme certainement changé. Alors, quelque chose que tous les astronautes que j'ai pu rencontrer disent, c'est que de là-haut, c'est beau, et que notre Terre est fragile, il faut la protéger, ça, ils le disent tous. Et puis après, bon, ce sont des hommes qui ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Et bon, je reviendrai certainement sur Léopold Earz, qui est un homme qui est vraiment formidable, avec la patience qu'il a de nous raconter sa vie à bord, son expérience, et on passerait une année à l'écouter.
Donc des hommes accessibles qui ont le désir de transmettre, en tout cas.
Le désir de transmettre. Ils sont très, très accessibles, et en général, ils répondent facilement à toutes les questions qu'on peut leur poser.
Alors pour terminer, quelques recommandations de lecture sur l'ISS, sur la vie à bord. Est-ce qu'on a quelques livres à proposer ?
Alors, vous pouvez avoir les livres 50 ans de conquête spatiale du CNES, hein, qui résume un petit peu toute l'expérience spatiale depuis le 4 octobre 57. Et bon, on passe des heures à lire ça. Bien sûr, il y a tous les sites internet.
Notamment celui de l'ESA et du CNES.
Oui, et puis celui d'Orion.
Et
aussi.
Celui d'Orion 43.
Ah, oui, où on met régulièrement en ligne les infos du spatial.
Eh bien, merci Jean-Michel. Cette émission se termine. Donc, vous pourrez la réécouter, bien entendu, à la demande sur notre antenne. À bientôt et merci.
À bientôt.
5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Décollage.